Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens, un premier texte, Colossiens 3. Nous ferons plusieurs lectures au cours de cette méditation. Donc Colossiens 3, verset 1er. Nous restons dans la pensée d'une communion intime avec le Seigneur. Colossiens 3.1 « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. » Deuxième lecture dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3, 2 Pierre 1, 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. » Amen. Et un verset que nous avions déjà lu dimanche dernier, dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Donc nous avons vu ensemble le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est... ça n'a pas été juste de nous sauver pour nous éviter l'enfer. Ça n'a pas été juste de nous sauver comme au travers du feu. Mais le désir profond de Dieu, c'est de nous avoir près de lui, dans sa présence, dans son intimité, dans sa proximité. Ça, ça a toujours été le désir de Dieu. Et il a pourvu en toute chose, nous en avons lu quelques extraits, mais il a pourvu à toute chose, à la croix du calvaire, par le sang de Jésus, eh bien cette relation est devenue possible. C'était impossible avant, et nous avons vu dès le jardin d'Éden, quand l'homme a choisi la voie de la désobéissance, eh bien il a été chassé du jardin et ça a été fermé pour lui. Mais en Jésus-Christ, par son sang précieux, nous pouvons avoir une relation de proximité avec Dieu qui est notre Père. En tous les cas, l'image parfaite de cette relation, c'est les trois personnes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais plus pour nous, le Fils et le Père. Jésus, la relation qu'il avait avec son Père, une telle intimité, une telle proximité. La Bible nous dit que Jésus ne faisait rien sans avoir vu son Père avoir fait, ni ne disait rien sans avoir entendu la parole. Quelle proximité, quelle intimité de Jésus. Il avait la plénitude, bien sûr, et nous sommes aussi fils au même titre. Bien sûr, nous avons été adoptés par Dieu, mais Jésus est notre frère. Et nous avons le même Père, ce Père céleste qui prend soin de nous. Alors, c'est vrai que Jésus a établi ces choses, il a donné sa vie pour cela. Donc, dans notre position spirituelle, vous savez où nous sommes dans notre position spirituelle. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà, ça c'est notre position spirituelle. Nos péchés ont été pardonnés. nous lui appartenons, mais entre notre position spirituelle et notre marche dans la réalité quotidienne, eh bien, il faut qu'il y ait de plus en plus accord et de plus en plus que ce que nous sommes influence eh bien, notre vie de tous les jours. Nous sommes des fils et des filles de rois. Nous ne pouvons pas nous conduire comme des orphelins ou comme des mendiants. Nous avons notre Père Céleste. Et lui, il pourvoit en toutes choses. Alors, eh bien, il faut que dans notre vie, dans notre pratique, dans notre marche, eh bien, ces choses que nous sommes devenues, de pécheurs que nous étions, eh bien, il a fait de nous de nouvelles créatures par sa grâce. Alors, Dieu veut que nous entendions sa voix au travers de sa parole. Parce que vous êtes d'accord avec moi, nous pouvons lire la Bible sans entendre la voix de Dieu. Mais Dieu veut qu'au travers de notre méditation, nous entendions sa voix. Il veut aussi que nous connaissions sa pensée. 1 Corinthiens 2,16 « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. » Paul ne dit pas « Moi, j'ai la pensée de Christ », mais « nous avons la pensée de Christ. » Dieu veut que nous comprenions ses plans, ses buts, sa volonté, ce qu'il est en train de faire dans notre génération. Notre génération, les événements qui se passent ne sont pas livrés aux hommes, seulement ce n'est pas les circonstances qui dirigent, mais c'est Dieu qui dirige toujours. Il est souverain, il a un plan, il est en train d'agir, il prépare, il fait, et il veut que nous entrions dans cette intimité aussi, par son esprit, et que nous comprenions ce qu'il est en train de faire dans notre génération. Est-ce que nous croyons que Dieu agit en ce moment ? Il agit comme il a toujours agi, depuis le début de l'histoire de l'humanité, et bien avant, dans toute. Dieu a agi, et Dieu continue d'agir vers un but. Tout ce qu'il fait, Dieu l'a pensé, il a un but, une volonté, un dessein, ce n'est pas le hasard. Dieu n'adapte pas sa volonté par rapport aux circonstances, ce que les hommes pensent, ce qu'ils font. Le dessein de Dieu sont éternels. Ce que Dieu a décidé, il le fera. Donc Dieu veut que nous comprenions. Il veut nous communiquer des choses profondes, éternelles, dont nous avons besoin. Il veut nous les communiquer. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'il y a des hommes et des femmes qui ont eu cette proximité avec Dieu, qui ont vécu près de Dieu. Nous avons pris l'exemple d'Abraham parce qu'il fut appelé ami de Dieu. Et donc dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, nous avons pourquoi il a été appelé ami de Dieu, parce que il a obéi et il a fait confiance à Dieu, cela lui a été imputé à justice, et c'est pour ça qu'il a été appelé ami de Dieu. Or l'appel que Dieu lance ce matin pour chacun d'entre nous, c'est un appel à cette relation de proximité, sa présence, il l'a prévu pour cela. Ce n'est pas des efforts personnels démesurés qui vont faire que je vais atteindre un niveau spirituel, mais Dieu l'a prévu comme cela. Il l'a prévu comme ça. Il n'a jamais prévu qu'on soit éloigné, qu'on n'entende pas la voix de Dieu, que la Bible ne nous parle pas, que sa présence, eh bien, nous ne la ressentions pas, qu'il n'a pas prévu ça. Le Seigneur a prévu autre chose, et béni soit Dieu, parce que son amour est tellement grand. Alors cet appel ce matin, que nous puissions le découvrir. Dieu se fait connaître au travers de sa parole, il nous a ouvert les bras, il nous a ouvert son cœur. Dans sa parole, eh bien, nous voulons le découvrir, il s'est ouvert complètement, il a ouvert complètement son cœur dans sa parole. Il nous dit tout ce dont nous avons besoin de savoir sur lui, tout. Son cœur, son caractère, ses attributs, ses desseins, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, tout nous est décrit dans la parole de Dieu. Il nous a ouvert son cœur. Ce qu'il est, il le décrit dans la parole. Ce qu'il veut, ce qu'il désire, ses affections, ce qui lui fait de la peine, il nous a tout décrit dans sa parole de lui. Et pourtant, il est Dieu. Et il nous l'a décrit dans sa parole. Et malgré la rébellion de l'homme, malgré son péché, sa méchanceté, il nous a aimés, il nous aime et il continuera de nous aimer. Alors dans cette relation, il faut également que du côté du croyant, il y ait cette ouverture, il y ait cette confiance, cette foi, et nous allons y revenir, il faut qu'il y ait cette transparence. Dans une relation, on est au moins deux, et il faut que des deux côtés, il y ait ces choses. Dieu s'est ouvert, Dieu nous a tout donné, il s'est donné lui-même, mais du côté de l'homme. Et c'est là où, c'est le deuxième volet de ce matin, où nous allons nous arrêter quelques instants. Souvenons-nous que Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît tout de nous. Alors, ça peut être effrayant aussi, hein. Dieu connaît tout de nous, la moindre pensée, nous le trouvons dans le psaume 139. Psaume 139, je vous lis juste quelques versets, verset premier de David. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Alors, David avait conscience de l'omniscience de Dieu. Il en était conscient. C'est dire à quel point il connaissait Dieu. Hein. Il en était conscient, il savait que Dieu connaissait tout. Il savait tout. Et son omniscience à Dieu lui permet de nous connaître parfaitement. Alors ça, on se dit, mais alors, quand je suis dans un lieu secret, Dieu me voit, Dieu m'entend. Eh oui. Alors si dans le lieu secret on est en train de l'adorer, merci Seigneur. Mais s'il y a d'autres paroles et d'autres pensées, Dieu le sait et Dieu le voit. Mais l'omniscience de Dieu lui permet de savoir toutes ces choses. Mais nous verrons que David va plus loin. Et dans cette relation d'intimité, je crois que nous ne devons pas nous arrêter à dire « Dieu sait tout », mais nous devons permettre à Dieu et lui dire à Dieu de venir et lui ouvrir notre cœur pleinement. C'est une autre démarche et David va la faire. Il sait que Dieu sait tout, mais il lui ouvre son cœur, il est participant. Ne sommes pas statiques en disant « ben voilà, Dieu sait tout et il a l'avenir dans ses mains ». Non, David dira au verset 23 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Éprouve-moi et connais mes pensées. Là, il devient participant. Il ne s'appuie pas simplement sur l'omniscience de Dieu, mais il lui ouvre lui-même volontairement, comme un engagement, il lui ouvre son cœur et dit « Seigneur, tu peux venir, tu peux radiographier mon cœur, tu peux aller dans les moindres recoins, je ne veux pas qu'il y ait de zone d'ombre » afin qu'entre nous, il y ait une relation profonde. David était cet homme-là, et il laisse à Dieu, il ne veut pas qu'il y ait d'obstacle. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 13 et verset 22, voici le témoignage qui nous est rendu de David. « J'ai trouvé, dit Dieu, David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Voilà un homme selon le cœur de Dieu, un homme en qui Dieu peut déverser, en qui il peut avoir une pleine confiance, même si David n'était pas parfait. Mais il dit « un homme selon mon cœur ». Le propre de l'homme, c'est de se cacher. Vous voyez, dès le jardin d'Éden, première chose qui s'est passée, l'homme s'est caché, il a eu peur. Et c'est le propre de l'homme naturel de se cacher, de cacher aux autres, d'avoir un jardin secret, de donner une image qui n'est pas la réalité, c'est ainsi. Mais la grâce est venue dans notre vie. Et nous n'avons plus besoin de nous cacher. Alors pourquoi les hommes se cachent ? Pour éviter de souffrir. Parce qu'ils pensent qu'en cachant, en se cachant, eh bien on se protège. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution, mais des fois ça peut... Mais enfin, avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Et nous verrons un petit peu plus tard que la relation que nous avons avec Dieu influera aussi dans la relation que nous avons les uns aux autres, dans la communion fraternelle, mais nous le verrons un petit peu plus tard, mais de la même manière que nous nous livrons et nous nous ouvrons à Dieu, nous devons aussi nous ouvrir aux frères. Toute proportion gardée, bien sûr, on ne peut pas tout dire, comme nous pouvons tout dire à Dieu, mais nous ne pouvons pas tout dire aux frères et sœurs, mais il faut se livrer, s'ouvrir, se donner. Aimer, c'est ça. Aimer, c'est s'exposer. C'est au risque d'être déçu, au risque de... Mais c'est l'amour. C'est l'amour. Alors le premier point que je voudrais souligner ce matin, il nous faut de la vérité, de la transparence vis-à-vis de Dieu. On a l'impression que si on n'est pas en train de prier, Dieu ne voit pas. Mais Dieu voit tout le temps. Dieu voit tout le temps. Même si on a l'impression que Dieu voit tout le temps. Et on ne peut pas dire à Dieu des choses qui ne sont pas la réalité. Dans le psaume 51 de David, homme selon le cœur de Dieu, il ouvre son cœur. Alors qu'il a péché, psaume 51, verset 5, il dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Au verset 8, il dit « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Pour avoir et garder cette relation, il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde avec Dieu. On ne peut pas être en décalage complet avec Dieu, avec ce qui est spirituel, avec la parole en décalage complet, et penser avoir une communion intime et profonde avec lui, ce n'est pas possible. D'ailleurs, dans le livre d'Amos, je crois que c'est, j'ai noté le verset, Amos chapitre 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Si dans notre cœur, il y a la pensée du monde, il y a tellement d'images, tellement de soucis, tellement de loisirs, tellement d'activités, tellement de choses. Est-ce que je peux réellement avoir une communion profonde avec Dieu? Moi, c'est pas possible. La Bible nous donne beaucoup de versets là-dessus, mais ce n'est pas possible. Il faut que nous ayons les mêmes centres d'intérêt que Dieu. La même direction, la même vision, même si nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons aller dans cette même direction, dans la direction de Dieu, dans la même vision, aimer ce que Jésus a aimé et abandonner ce que Jésus n'a pas aimé. Désirer être rempli du Saint-Esprit nous engage à aller dans une direction. Si je dis « je veux être rempli de l'Esprit » et je vais dans une autre direction, ce n'est pas possible. Comprenons. Donc je crois que le désir de chacun ce matin, c'est de nous approcher encore plus de Dieu, d'entendre sa voix, d'avoir une relation. Je crois que c'est le désir de chacun. Eh bien, il faut aller dans la même direction que Dieu, dans la même direction que le Saint-Esprit. Ce que nous trouvons dans la parole, eh bien, il nous faut aller dans cette même direction, sinon... On ne peut pas désirer être rempli de l'Esprit, être un adorateur, aimer l'Église, aimer les perdus, désirer la sainteté, l'amour, que la foi augmente, que la sanctification soit dans notre vie. Abraham élevait des autels en reconnaissance à Dieu. Nous voyons que Abraham a eu une relation avec Dieu de proximité. Chaque fois que Dieu intervenait dans sa vie, il élevait un autel. David a écrit des choses qui démontre combien il avait une intimité avec Dieu. Quand on lit les psaumes, en particulier les psaumes de David, on se dit, mais cet homme vivait près de Dieu. Ça ne s'invente pas. Ce qu'il écrit, c'était de l'abondance du cœur qu'il parlait. Par exemple, dans le psaume 63, et il y a tellement de psaumes, mais le psaume 63, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Au verset 7, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi les veilles de la nuit. » Verset 9, « Mon âme est attachée à toi. » Et c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, pouvons-nous faire nôtres ces paroles-là ? Mon âme est attachée à toi. Il aimait le Seigneur. Et malgré la relation qu'il avait, il voulait encore et encore aller plus loin avec Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Paul exhorte les Éphésiens, et nous pouvons voir les Colossiens, les églises en fait. On prend des exemples, mais le désir de Paul, c'était que ces chrétiens soient remplis, qu'ils aient la plénitude, qu'ils connaissent Dieu, qu'il y ait un esprit de révélation, de sagesse dans sa connaissance. Voilà le désir, c'était pas juste, entre guillemets, que le Seigneur pourvoie leurs besoins. Non, nous trouvons finalement le désir de Paul, c'est qu'il se rapproche. D'ailleurs, c'était son désir à lui. Dans Philippiens au chapitre 3, il dit « Je fais tout pour connaître Christ ». Alors, on peut se poser la question et dire « Mais si Paul dit et écrit dans une lettre « Moi, je fais tout, c'est le but de ma vie, je fais tout pour connaître Christ », alors nous aussi, nous avons besoin. Hein. Je voudrais participer à la communion de ses souffrances, si je puis parvenir à la résurrection. Mais c'est beau ce qu'il écrit. Voilà, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Il n'écrit pas autre chose, il n'invente pas. C'est ce qu'il y a dans son cœur. Il l'écrit, c'est le but de ma vie, c'est Christ. Et il le dira même, mourir m'est un gain. Il est rempli du Seigneur, il a une communion. Et pourtant, il dit, si je puis parvenir. C'est beau. Et il écrit il prie pour les Philippiens, pour les Éphésiens, pour les Colossiens. Voilà, que l'Esprit vous remplisse, un esprit de sagesse, pour que vous compreniez qui il est. Que vous compreniez qui il est. Donc là, il nous faut de la vérité, de la transparence. Il faut mettre à nu son cœur devant Dieu. Pas de jardin secret avec Dieu, il sait tout dans son omniscience, mais nous pouvons le laisser, lui dire « Seigneur, tu peux venir, vas-y, va dans tous les recoins, je ne veux pas laisser de zone d'ombre, je ne veux rien laisser, que Dieu soit béni pour cette possibilité que nous avons de nous approcher. » Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est cette confiance, cette foi. Quand on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas lui faire confiance. Il y a des gens qui disent « je crois en Dieu », mais tout nous montre qu'ils n'ont aucune confiance dans le Seigneur. Vous pouvez croiser quelqu'un et dire « ah ouais, moi je crois en Dieu ». Mais comment pouvons-nous croire en quelqu'un que nous ne connaissons pas ? Mais quand nous connaissons Dieu, quand nous connaissons Christ, je crois que nous ne pouvons que lui faire confiance. Il est digne de notre confiance, il est fidèle, il a toujours été fidèle. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a été fidèle. Et Jésus, nous le voyons, nous le trouvons dans les Écritures, il a toujours été fidèle. Il est digne de notre confiance. Or, sans confiance, il ne peut pas y avoir de relation, vraiment. Proche. C'est pas possible. Et je suis toujours étonné parce que Dieu nous fait confiance. Et nous, parfois, on doute. Mais lui nous fait confiance. Il nous confie des dons, ministères, des œuvres. Il nous fait confiance. malgré qu'ils nous connaissent parfaitement. Ça nous dépasse. Et plus nous le connaissons, et plus nous avons envie de le louer, plus nous avons envie de l'élever, et plus nous avons des choses à lui dire et des choses à dire de lui, plus nous le connaissons. Et finalement, plus nous le connaissons et plus nous allons lui obéir. Parce que quand on réalise qui est Dieu, on réalise en même temps qui nous sommes, c'est-à-dire un grain de poussière. Un grain de poussière. Et comme nous l'avons vu mardi soir, le vase peut-il parler à Dieu et dire des choses ? Non, au divin potier, c'est pas possible. Nous sommes l'argile, il est le divin potier. Donc la foi, la confiance, et Abraham, c'est pour cela qu'il a été appelé ami de Dieu. Enfin, il nous faut aussi un engagement. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas ma foi privée, non, ce n'est pas juste je vis et puis j'ai une foi là. Ça nécessite, à répondre à cet appel de Dieu, ça nécessite un engagement. Un engagement dans l'amour. Parce que l'amour est un engagement. Ce n'est pas un coup de foudre. Hein. Parce que la foudre, ça ne dure pas longtemps. Si l'amour, c'est un coup de foudre, ça ne va pas aller loin. Hein. Mais l'amour, c'est un engagement, on choisit. On se donne délibérément pour aimer. D'ailleurs, Jésus a montré dans sa relation avec le Père et dans sa relation avec l'Église, qui est sa fiancée, son épouse, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, il est dit « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle ». Il s'est livré pour l'Église. C'est par amour qu'il s'est livré. Et il s'est livré entièrement. C'est un réel engagement, une relation d'amour. Bien sûr, on s'expose. On s'expose. Juste une parenthèse, mais nous y reviendrons. Mais dans les relations fraternelles, si on ne veut pas souffrir, si on ne veut courir aucun risque, on ne s'ouvre à personne, on ne parle pas, mais ce n'est pas la communion fraternelle. Nous sommes imparfaits, mais Dieu nous appelle à répondre à son appel et il nous a unis par le Saint-Esprit. Mais d'un côté pratique, eh bien, nous devons nous engager. Alors, quelqu'un peut me dire, moi j'ai été déçu, maintenant c'est fini. Mais ce n'est pas la communion fraternelle. Si on veut être déçu, il ne faut même pas venir dans l'Église. Parce qu'on est des humains et on est imparfaits. Et le fait d'être ensemble avec nos différences, si on n'a pas un engagement dans l'amour, on va... Mais c'est pour cela que les réunions Zoom, et je l'ai noté, ne sont pas une fin en soi. Merci Seigneur, et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, voilà, c'est mieux que si elles n'y étaient pas. Mais ça ne remplacera jamais le rassemblement. On ne peut pas faire autrement, on le fait, mais le rassemblement, quand... Il est dit dans le psaume 133, verset 1er, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ensemble, c'est l'endroit où nous pouvons manifester ce que Dieu a mis dans notre cœur. Je ne parle pas là de choses négatives qui peuvent, bon, c'est même pas la peine, mais nous devons manifester ce que Dieu a mis dans notre cœur. Don spirituel, ma prière, ma foi, ma louange, mon attention, etc. Nous pouvons le manifester dans la communion fraternelle, bien sûr, aussi ailleurs, mais ensemble. Ensemble, nous pouvons manifester ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et se fermer, c'est, c'est fermer la porte aussi à manifester ce que Dieu a mis dans notre cœur et dans notre vie. C'est important. Je peux exercer l'amour et transmettre quelque chose de la part de Dieu, être en bénédiction. La communion fraternelle, c'est ce sens, c'est être en bénédiction les uns pour les autres. Alors je crois qu'on a des progrès à faire. Non ? Bon, on a des progrès, c'est sûr. Manifestés. Les premiers chrétiens se sont livrés pleinement. Tous les jours, ils étaient ensemble. Tous les jours. Alors il y a eu certainement des difficultés, de la souffrance, mais c'est le prix de l'amour. C'est le prix de la relation. C'est sûr, si on ne veut pas de soucis, on reste seul chez soi. Et encore, il y en a, je suis sûr, ils ne se supportent pas eux-mêmes. Mais si on ne veut pas souffrir, on ne veut rien, on se donne pas. Mais Jésus nous a montré l'exemple, lui, il s'est livré lui-même. Jésus a aimé en tout temps. Et vous savez, la réponse des hommes à l'amour de Dieu, ça a été la croix. Pourquoi ? Parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il était la vérité, parce qu'il a ouvert pleinement son cœur. Ce cœur plein d'amour a été transpercé. Je n'ai pas dit le cœur, mais le côté a été transpercé par une lance. Vous voyez la réponse des hommes ? Toujours le mal. Incroyable. Cet homme, Jésus, Jésus-homme, n'a fait que aimer et on lui perce le côté avec cette lance de la méchanceté, de la rébellion, du péché. C'est incroyable. Il se dit, mais même s'ils avaient été indifférents, bon, mais aller jusqu'à dire, crucifie-le. Vous voyez comme le cœur de l'homme est vraiment pas beau, mais Dieu l'a transformé. Et je bénis Dieu pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre de la grâce qui nous a transformés. Avant, ça aurait été impossible d'être unis de générations différentes, d'arrière-plan social différent, de races différentes, etc. Ça aurait été impossible d'être unis dans le même lieu. Il n'y a que l'Église. Des enfants avec des personnes âgées de tous les âges. Il n'y a que l'Église. C'est un miracle. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons les uns pour les autres des moyens de bénédiction. N'oublions pas que le salut, c'est le point de départ. Le salut, c'est le point de départ de cette marche. Mais avec la sanctification, les progrès dans la foi, les progrès dans l'amour, eh bien, plus la parole et l'esprit prendront de place en nous, eh bien, plus nous aurons cette relation d'intimité avec Dieu et une relation fraternelle les uns avec les autres. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire cela en nous et au travers de nous. Sinon, c'est impossible. Si c'est juste avec nos personnalités, on n'y arrivera pas. Si c'est juste des relations, j'allais dire, amicales, la communion fraternelle, c'est quelque chose d'autre. Alors que Dieu nous aide, Jésus a tout accompli pour cela, mais il faut bien sûr le désirer, le vouloir, être prêt à souffrir, à suivre le même chemin que le Seigneur. Il faut être prêt. C'est pas de la théorie, c'est pas Dieu nous aime tous, on est tous pareils, voilà, le Seigneur en une phrase, on ne lisse pas tout. C'est pas ça dans l'Écriture, pas du tout. Le salut, il est le même pour tous. L'Esprit, il est le même pour tous. Nous avons le même Père, la même foi, le même Seigneur. Mais ensuite, eh bien, dans notre vie, eh bien, nous sommes quand même participants. On n'est pas passifs. On ne laisse pas faire les choses comme cela. L'Écriture nous montre que ce ne sont pas nos efforts, c'est Christ qui a fait. Mais maintenant, il faut se disposer. Il faut le vouloir. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, ceux qui sont déterminés, décidés. Cette relation, elle coûte. Elle coûte, une relation profonde avec le Seigneur, elle coûte, parce qu'il va y avoir certainement autour de nous de l'incompréhension et même on va pouvoir nous haïr sans cause. Parce que Jésus, c'est cela en fait. Il a été haï sans cause. Il n'a rien fait de mal et il a été haï. Plus nous nous approchons du Seigneur et plus il y a des choses qui... Mais il faut être prêt. Si on dit, ah non, non, moi, je ne veux pas vraiment qu'on dise du mal, je ne veux pas que souffrir de quoi que ce soit, je ne sais pas, parce que le Seigneur nous dit le contraire. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Il a souffert et nous suivons le chemin de la souffrance. Alors moi je dis, en terminant, je dis que c'est la plus belle des vies, la vie chrétienne, parce que nous pouvons avoir cette relation avec le Père, cette relation avec Jésus. C'est la plus belle des vies. Que pouvons-nous trouver d'équivalent ici-bas? Rien du tout. Cette relation avec Dieu. Imaginez, il connaît tout de nous, nous connaissons de lui au travers de sa parole, et il veut nous communiquer encore des choses qui sont dans son cœur, déverser des choses dans notre cœur, choses dont nous avons besoin et qui changent notre vie. Ce que nous recevons de Dieu change notre vie. Bien sûr qu'on peut aimer quelqu'un qui n'est pas aimable grâce à l'Esprit de Dieu qui nous remplit. Sinon, c'est complètement impossible à mettre en pratique si on lit simplement cela avec nos efforts humains, avec nos personnalités, nos caractères. Obéir à l'Évangile, c'est même pas possible. Il faut devenir de nouvelles créatures, être rempli de l'Esprit pour vivre cette relation avec Dieu, de proximité, cette relation fraternelle et cette relation avec le monde. Il nous faut l'Esprit de Dieu qui agit en nous et au travers de nous. Alors Abraham, David, les prophètes, Jésus lui-même, Paul, Jean et les autres ont souffert parce qu'ils ont aimé. Ils ont souffert. Mais ils ont servi Dieu. Ils ont marqué leur temps. Ils ont été et sont encore des bénédictions aujourd'hui pour nous quand nous lisons leur écrit. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils l'ont retranscrite pour les hommes. Alors quand Dieu, que Dieu nous trouve aujourd'hui dans cette mentalité, dans cette disposition de cœur, que nous puissions lui dire, Seigneur, c'est vrai, je veux me délester de certaines choses pour recevoir de toi, Seigneur, ce dont j'ai besoin. Je veux cette relation de proximité. Et même si ça me coûte, aimer, ça coûtera toujours. Et même si ça me coûte, Seigneur, je suis prêt parce que tu m'as aimé le premier. Seigneur, et je veux vivre cette relation avec toi. Seigneur, nous